à ce pays, c'est plus qu'un bâtiment, c'est de l'espoir.
El pueblo unido jamás será vencido.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
Et si on faisait un pas de côté? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais. On verrait ce qu'on voit jamais.
Wakadi, on a quelque chose à dire. Bonjour. On vous propose aujourd'hui un plateau enregistré en public au cœur de Brissac, dans la vallée de l'Hérault. En effet, à l'occasion de la fête de la science, nous nous sommes déplacés et on a été relativement bien accueillis, voire très bien accueillis.
Très très bien accueillis même.
Dans ce petit village proche de Ganges, pour aborder les enjeux de la vulgarisation scientifique, on parlera également de la théorie de l'évolution. Pour animer cette émission, Boris et moi-même Guillaume.
Bonjour.
On a des invités qui ont quelque chose à dire et ils sont nombreux aujourd'hui. Car on a avec nous Édouard Hollande qui est professeur des écoles ou instituteur, on ne sait pas trop ce qu'il faut dire.
Il y a eu débat.
À Notre-Dame-de-Londres. Nathalie Rabou qui est adjointe à la mairie de Brissac, chargée de la culture mais pas que, vous nous direz tout à l'heure, vous nous apporterez les précisions. Pierre Valvin qui est ingénieur au CNRS et également animateur des ateliers qui sont proposés dans le cadre de la fête de la science à Brissac. Et Lionel Montmasson, agrégé de mathématiques, qui est venu spécialement de Toulouse pour participer à cette émission avec nous. En deuxième partie d'émission, on accueillera également Eric Hembert, qui est enseignant-chercheur à l'UM2, c'est l'Université des sciences à Montpellier, et qui travaille également à l'Institut des sciences de l'évolution. Avec lui, on abordera plus particulièrement la théorie de l'évolution et Monsieur Darwin. Wakadi, on a quelque chose à dire. C'est parti.
Là, j'agite les molécules de gaz. Donc elles s'agitent. Qu'est-ce qu'elles font? Elles sautent, elles vont taper sur la paroi. Elles tapent là, elles tapent partout. Compris vers toi. En tapant, ça fait comme des petites forces. Cette force, on appelle ça de la pression. Si j'augmente le volume, elles ont de la peine à monter jusqu'en haut. C'est-à-dire que la pression a diminué. Par contre, je peux très bien les faire monter jusqu'en haut en augmentant la température. Ouais, c'est brillant. C'est une image. C'est pour vous montrer qu'en augmentant la température, on augmente l'agitation des molécules. Et si on augmente le volume, on diminue la pression. Si on diminue le volume, on augmente la pression. Vous avez compris?
Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire?
Ouais, alors là, on vient d'entendre des ateliers de physique qui sont présentés à Brissac dans le cadre de la semaine de la science en fête. Donc ça a été des animations qui ont été faites du 15 octobre au 23 octobre. Où on nous présentait la température et puis la pression. Est-ce que donc Pierre Valvin, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce qui motive l'université ou le CNRS dans l'organisation d'un tel événement, et surtout à Brissac, à l'extérieur de Montpellier ou autre?
Du point de vue du CNRS, ce qu'on peut dire, c'est que, enfin de l'université d'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que le but, c'est d'intéresser des futurs adultes, quoi, des futurs chercheurs éventuellement, de les intéresser à la science, d'éveiller leur curiosité. Bien souvent, on voit des gens qui ont des fois une distance avec la science, donc le but aussi, c'est de désinhiber les craintes qu'il peut y avoir quant à l'approche de la science, quoi. Voilà. Après, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que le CNRS et l'université, c'est des services publics quand même qui ont une mission aussi de diffuser la connaissance auprès du grand public. Ça fait partie de nos missions. Pour nous, en tout cas, c'est pas une charge, c'est un vrai plaisir de faire cette mission. Là.
Et du coup, cette mission, vous êtes venu la faire à Brissac. Alors, Nathalie, à Brissac, une petite commune dans la vallée de l'Hérault, pour vous, c'est quoi l'intérêt de faire quelque chose sur Brissac? Pourquoi est-ce que, plutôt que faire à Brissac, pas faire un bus et d'aller tous à Montpellier voir le village des sciences?
Ben, l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir amener les sciences en milieu rural, puisque si on va sur Montpellier, ça a un coût, et il faut savoir qu'il y a plus de 6 à 7 écoles qui se déplacent sur la commune de Brissac. Et là, ça leur coûte, c'est vraiment pas très très cher. Alors que si on va sur Montpellier, il faut savoir que ça, il y en a pour un minimum de 300 euros par MUS. Donc c'est vrai que l'intérêt, c'est aussi de faire connaître un peu plus le village et surtout d'amener les sciences à Brissac et d'ouvrir les enfants aussi à une culture scientifique. Parce que bon, on parle toujours de culture, mais au sens large. Et la culture scientifique, pour ma part, est très très importante.
Donc alors, il y a la mairie qui est partenaire de ces ateliers. Ces ateliers, comme on le disait, ça va du 15, ça a commencé le 15 octobre et jusqu'au samedi 23 octobre. Il y a eu pas mal de scolaires qui y sont passés. Et du coup, bon, y a Charpak qui est décédé il n'y a pas très longtemps, le père de la main à la patte. Il n'a pas pu venir, il était empêché. Il a été contraint de rester là où il était. Et pourquoi est-ce que tous les scolaires, vous venez, donc Edouard, toi qui as un STIT, qu'est-ce qui vous motive? Parce que vous pourriez très bien faire ça aussi dans le cadre de votre classe, de votre école. C'est quoi l'intérêt de venir à ces semaines-là?
Je vois trois avantages principaux. Le premier, c'est le matériel, puisqu'on a accès ici à un matériel que
opportuniste, alors.
On ne pourra jamais, tout à fait, mais il en faut. Malgré les énormes moyens qu'on nous alloue dans les écoles publiques, surtout en ce moment, on a du mal à acheter des bonbonnes d'azote liquide, par exemple, ou des compresseurs pour faire le vide. Donc c'est vrai que déjà la première chose, c'est qu'on a accès à un matériel qu'on ne pourra jamais manipuler en classe. La deuxième chose, c'est, je dirais, les personnes, parce qu'on a toujours un petit peu tendance en classe à pré-mâcher, on va dire, la connaissance pour qu'elle la ramène au niveau des enfants. Et des fois, on ne se rend pas compte que c'est important que la connaissance reste un petit peu, je dirais, intacte. Et que ce soit les enfants qui doivent faire un petit peu le chemin pour aller à cette rencontre. Et le fait de rencontrer des vrais chercheurs, et ben, ils sont là en contact de la vraie connaissance, pas la connaissance scolaire uniquement. Le troisième avantage que je vois, c'est tout simplement de sortir de la classe, parce que, bon, en plus dans un cas où j'ai les écoles rurales, souvent on suit des enfants pendant plusieurs années, puisqu'on a plusieurs niveaux. Et donc les enfants, moi personnellement, me voient pendant 3 ans, donc en général ils m'aiment bien, mais je pense que ça leur fait...
Ils n'osent pas dire le contraire.
En tout cas, ils n'ont pas intérêt à dire le contraire.
Ils n'ont pas le choix, 3 ans.
Et puis voilà, il faut de toute façon se faire les uns aux autres, quoi. Mais c'est intéressant de temps en temps, je trouve, qu'ils aillent voir d'autres personnes et que ce ne soit pas toujours le prof qui radote un peu les mêmes choses et qu'il soit le seul garant de la connaissance, quoi.
Alors quand on a préparé cette émission avec les organisateurs là, de Sciences en Fête sur Brissac, Wakadi, on a plutôt, nous, notre créneau sur les émissions, c'est plutôt tout ce qui tourne autour de l'actualité sociale, les enjeux de société. Et en fait, quand on l'a préparé, on a positionné, en tout cas c'est ce qu'on a entendu des organisateurs de cet événement, on a positionné cette question de la vulgarisation scientifique comme un des moyens justement de mieux comprendre la société, de l'intérêt d'avoir cette culture qui permet justement de décrypter un certain nombre d'enjeux ou d'événements qui se passent à l'heure actuelle. Alors Lionel, je vois que tu fais la tête parce que t'as compris que j'allais te poser la question, mais par exemple toi tu es agrégé de mathématiques, c'est ça?
Enfin, je suis enseignant dans un lycée, oui.
Mais je dis agrégé, c'est pas forcément le titre qui est important, mais ça veut dire que t'es allé jusqu'à un certain stade quand même dans la...
Tu sais compter, quoi.
Dans la façon d'aborder les mathématiques. Est-ce que toi t'as un avis justement sur cette question de savoir comment la connaissance scientifique, pas juste pour avoir de la culture, mais permet de mieux se situer peut-être dans la société, permet peut-être mieux de décrypter certains enjeux à l'heure actuelle.
Dans la société, je ne sais pas trop, mais en tout cas pour moi, l'enseignement des mathématiques, qui est un peu le langage de la science, donc de la science par extension, ça doit surtout servir à bien comprendre une méthode, qui est la méthode scientifique, qui permet dans beaucoup de domaines de décoder des choses qui peuvent être donner des résultats ou pas donner des résultats. Après, extrapoler au niveau social, ça, j'ai pas trop d'éléments là-dessus. Pour moi, c'est une méthode qui fonctionne et qu'il faut essayer de développer, de comprendre, parce qu'elle permet de trier par rapport aux choses qui peuvent être des vérités ou des contre-vérités.
Par exemple, tout à l'heure, hors antenne, en préparant l'émission, on parlait de la question des sondages, où en fait, on est à l'heure actuelle, on est régulièrement assailli de sondages, d'opinions qui nous donnent des directions en disant voilà ce que pensent les gens, voilà la direction qu'il faut prendre, parce qu'il y a des sondages qui nous laisseraient penser que. Voilà.
Mais alors là, le rôle qu'on peut avoir en mathématiques, c'est donc l'enseignement des statistiques. Et alors dans les statistiques, c'est un moyen de décrire des populations, mais c'est aussi un moyen de les faire parler. Et donc quand on veut faire parler une population comme la population française, par exemple, qui a donc évidemment plusieurs millions d'individus, ben c'est impossible de poser la question à tout le monde. Donc on fait ce qu'on sait très bien, en tout cas, ce qu'on fait très bien faire aujourd'hui, c'est on fait des sondages. Et donc dans le cours de mathématiques, ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire que les enfants gardent un regard critique par rapport à ces sondages. Par exemple, en regardant le nombre, tout simplement, le nombre de personnes à qui on pose la question. Si on pose la question à 10 personnes, est-ce que ça va avoir beaucoup de sens de savoir que 7 sur 10 pensent une chose, et est-ce que ça a plus de sens quand ils sont 500, est-ce que ça a plus de sens quand ils sont 1000, et donc quantitativement de les faire réfléchir là-dessus.
Alors Edouard, vous, en tant qu'enseignant, est-ce que ça c'est des questions que vous abordez avec vos élèves, notamment est-ce que ce genre d'événement vous permet d'aborder ce genre de questions ?
Pas tout à fait, non, parce que là on est plus centré sur quelque chose qui est du domaine scientifique. Donc c'est vrai que moi je dirais que les questions plus sociales, ça se traite plutôt quand on rentre de la cour de l'école, parce qu'il faut régler les problèmes qu'on rencontre. Donc voilà, après moi le lien entre la science et la société, bon évidemment tout est lié, mais directement là dans ces ateliers, non je vois pas trop le lien, non.
Là, on a plutôt affaire à des ateliers qui essayent de donner un peu la curiosité d'essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut donner de la connaissance scientifique. C'est même plus que de la vulgarisation, c'est d'essayer d'avoir une culture scientifique. Et donc, Pierre, là, dans ces ateliers, là, les états de la matière, vous cherchez à montrer quoi et à amener quoi aux enfants ?
Ben là, on peut parler des états de la matière, mais moi, je sais pas, je pensais dans ma tête, je voulais d'abord rebondir sur... ce que tu as dit en tant que prof de maths et sur les questions de société. C'est vrai que si on a des notions de mathématiques minimales, on va aussi quand même pouvoir faire la différence, par exemple, entre un pourcentage et une valeur absolue. En ce moment, sur les sujets d'actualité, c'est assez important de savoir faire la différence entre un pourcentage et une valeur absolue. Par exemple, donc ça, je voulais juste rebondir sur ce point-là.
Tu veux dire par rapport au partage des richesses, savoir voilà, qu'il y a 150 milliards chaque année qui passent du capital, du travail au capital,
voilà,
et qu'avec ça, on pourrait
si
financer la retraite.
Je voulais en parler dans ce micro, si c'était...
Non, c'est pour savoir. Okay. Effectivement, ça peut être important
c'est
d'avoir des notions de mathématiques.
C'est exactement ce que j'avais derrière la tête, voilà. Donc, une règle de 3, des fois, ça peut servir. Donc après, Boris, c'était...
Non, mais par rapport à ce qui se passe ici, on va écouter tout à l'heure un petit reportage des ateliers, mais quel est l'objectif, en fait, de cette année, quel est le message que vous voulez faire passer aux écoliers, mais aussi aux adultes, parce que le samedi, c'est ouvert aux adultes.
Donc cette année, alors, toujours pareil, dans ma tête, j'avais envie de parler de l'an dernier, des notions d'électricité, excuse-moi.
Moi, je fais juste mes questions, tu fais les réponses que tu veux.
Pardon. Non, c'était pour rester dans le sujet d'avant. Parce que j'ai pas voulu couper la parole, mais l'an dernier, par exemple, on a abordé les questions d'électricité, de la façon dont on fait l'électricité. Par exemple, il y avait des expériences très rigolotes où on faisait simplement bouger un aimant le long d'un tube de cuivre et puis on voyait que ça produisait de l'électricité. Donc en fait, ça démystifie un peu certaines notions, tout ce qu'on fait. Ça démystifie la question de la production d'électricité. Donc du coup, après, si on est dans notre tête un peu plus clair sur la façon de produire de l'électricité, peut-être qu'on va pouvoir participer à des choix après et qui sont des choix de société. Est-ce qu'on va choisir le nucléaire ou est-ce qu'on va choisir l'éolien ? Est-ce qu'on va choisir... Vous voyez, c'est ce que je voulais dire sur le sujet qui nous intéressait avant. Donc là, voilà, parenthèse fermée. Donc cette année, on s'intéresse... C'est ça la question. Hein, on s'intéresse à la matière et notamment au changement d'état de la matière. Alors, il faut que je me sorte du discours que je fais aux enfants le matin. La matière, elle peut prendre trois états, solide, liquide et gazeux. Donc entre chacun des états, il y a ce qu'on appelle un changement de phase. Ce changement de phase, disons qu'on l'expérimente avec de l'eau, avec de l'azote. On l'expérimente sous différentes conditions de pression, de température. Et voilà, donc on introduit les notions de pression, de température, de ce que c'est qu'un solide par rapport à un liquide. Voilà, bon, je sais pas si je rentre dans les détails vraiment maintenant.
Mais on a qu'à essayer d'écouter un petit son pour voir exactement comment vous faites, parce qu'on va voir, je crois, justement l'atelier sur l'azote liquide et la liquéfaction de l'oxygène.
D'accord.
Alors, je mets de l'azote.
dans l'entonnoir. L'entonnoir est strictement bouché. Ok ? En bas, il n'y a pas de souci. Donc l'azote est dedans et on refroidit le métal.
On regarde en dessous.
Qu'est-ce qu'on voit ? Regardez bien ce qui se passe là, qui monte. Qu'est-ce qu'on voyait ? Il y a des mouvements sur le métal.
Ah, ça goûte.
Et là, qu'est-ce qui se passe ?
Il y a de l'eau.
Il y a quelque chose qui goûte. Est-ce que c'est de l'eau ?
Ça remonte là, regarde.
Ouais, ça remonte.
Tu penses que c'est de l'eau ? Qu'est-ce que vous pensez que ça puisse être ?
De la vapeur.
De la vapeur, ça fait pas des gouttes. Il y a de la vapeur. Ça, c'est de la vapeur d'eau, ici, tout autour, blanche, qui sous l'effet de la basse température, devient visible. Mais les gouttes, là, qu'est-ce que ça peut être ? C'est quelque chose qui est autour de l'entonnoir et qui, sous l'effet de la basse température, devient liquide. Alors, qu'est-ce qui est autour de l'entonnoir en ce moment ? C'est dans l'air. Là-bas, j'ai marqué la composition de l'air principale. Donc vous voyez que le principal, 78% dans l'air, on a de l'azote. Ensuite, on a l'oxygène. Ensuite, on a un tout petit peu. Et après, on a aussi de l'eau. L'eau, la quantité est variable suivant l'humidité du jour. Alors la question, c'est qu'est-ce que ça peut être qui goûte ici ? Est-ce que ça peut être de l'eau ?
Je crois pas.
Alors à ton avis, sachant que l'entonnoir est à moins... En gros, 200 degrés, moins 195. Est-ce que l'eau, elle est liquide à cette température ?
Non.
Elle est sous glace. La glace, on la voit au-dessus. La limite qu'on voit là, c'est la limite de liquide dedans. Le liquide, en ce moment, il arrive à ce niveau-là. Au-dessus, il fait plus chaud. Okay ? Et là, il fait très, très froid. Là, on est à moins 195 degrés. Ici, on a autre chose que de l'eau qui coule. Alors, qu'est-ce que ça peut être en regardant là-bas ? Alors, dans les candidats possibles, on a quoi ? Azote, oxygène, argon. L'argon, il y en a tellement peu, on ne verrait pas. Il reste oxygène. Est-ce que vous connaissez une des caractéristiques de l'oxygène lorsqu'on le met sur une flamme ou une braise ?
Non.
Est-ce que vous avez déjà fait du feu ?
Oui.
Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un souffler pour animer le feu éventuellement, des braises ?
Oui.
Alors, on va faire ça. On va regarder. On va faire une braise avec le carton. On va enlever la flamme, on prend feu là, et on l'éteint, et on met dessous. Donc ça ressemble énormément à ce qui se passe lorsqu'on utilise un soufflet sur un feu, on souffle dessus pour animer le feu. Donc on se met, là ce qu'on voit, c'est de l'oxygène qui a été liquéfié. Si vous regardez les températures de liquéfaction, vous voyez que la température de liquéfaction de l'oxygène, c'est moins 183 degrés. Ça veut dire que... Lui, à moins 195 degrés, effectivement, il n'est plus en phase vapeur. Il est passé de vapeur à liquide. Et tout ce qu'on voit mouillé, un peu l'espèce de sensation là, visuelle que l'on a, en fait, c'est de l'oxygène qui est liquide et qui va aller jusqu'au bout de la pointe. Là. Et à la pointe, il goûte, goutte à goutte. Donc ça, c'est certainement pas de l'eau. C'est de l'oxygène qui est liquéfié. Ok ?
Donc là, on est encore à Brissac, dans la vallée de l'Hérault, près de Ganges, une émission enregistrée, une émission wakadienne, dans les conditions du direct, donc pendant la semaine de la science qui se déroule à Brissac plus longtemps qu'ailleurs, puisque ça va du 15 octobre au 23 octobre. Donc Nathalie, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce partenariat que vous avez monté ? Parce que je crois que ça fait 3 ans que vous organisez un peu ces événements scientifiques avec les écoles, avec l'université, le CNRS, la municipalité de Brissac. Ça se passe un peu comment ? Comment est-ce que ça se met en route, cette tambouille ?
Alors en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'une vraie organisation pour que chaque année, cette fête soit de mieux en mieux organisée. Donc la première année, tout le monde, on a eu un retour tout à fait... Les gens ont été très contents de l'organisation de cette manifestation. Et ensuite, on a décidé de se réunir tous ensemble, en fait, pour pouvoir préparer au mieux ces futures manifestations.
Quand tu dis tous ensemble, c'est
alors, tous ensemble, c'est les universitaires, c'est les écoles et la mairie, bien sûr. Puisque là, je suis ici en tant qu'adjointe responsable donc de la communication. Je suis responsable aussi à la jeunesse et je m'occupe aussi des personnes âgées. Donc là, c'est vrai que... Donc je me suis impliquée dans ce projet parce que en tant que donc pour la, responsable à la communication, c'était important aussi de faire le lien entre ce qui se faisait donc à l'école. Ça permet, c'est vrai, de faire le lien entre l'école, la vie au niveau du canton. Tout, c'est important de relier tout, que tout le monde travaille ensemble en fait. Et donc dorénavant, il y a après chaque fête de la science, il y a une réunion de bilan qui est effectuée avec tous les partenaires, donc les écoles et les universitaires. Et on prépare assez rapidement l'année à venir. Dès que le thème de Science en Fête est décidé, en fait, tous les partenaires se réunissent pour préparer au mieux cette manifestation.
Ça veut dire que pour toi, Edouard, c'est pas juste une sortie. Vous avez un travail en amont, un travail en aval sur ces questions-là. C'est quelque chose que vous utilisez en cours ou c'est juste une visite d'un parc d'attractions?
Ben déjà sur le bilan, puisque c'est vrai que bon, les scientifiques ne sont pas forcément toujours des pédagogues, donc c'est vrai qu'il y a des fois des petites... on peut apporter nos idées aussi quoi, sur l'organisation d'ateliers, sur la manipulation notamment, parce que c'est vrai que... on sait qu'on apprend plus quand on manipule. Alors là, c'est toujours un peu délicat pour ce que je disais tout à l'heure, c'est que le matériel est quand même souvent un petit peu délicat à manipuler. Donc il y a des normes sécurité qui nous interdisent de manipuler l'azote liquide, par exemple.
On ne jette pas du tout d'azote liquide.
On montre de l'eau, on dit que c'est de l'azote, on met un peu de fumée, et ça marche, voilà. Ça va très bien. Les gamins n'y voient rien. Et on est dans les normes. Les inspecteurs peuvent venir vérifier derrière.
Comme les fromages, il n'y a pas de goût, mais c'est dans les normes.
Tout à fait. Alors, donc déjà, bon, voilà un petit peu au niveau du bilan. On essaye de donner un peu notre avis. Après, il y a des idées aussi sur l'organisation parce que les ateliers, en général, prennent une demi-journée. Nous, comme on vient pour la journée, on essaye de faire aussi une partie extérieure parce que c'est vrai que les enfants aiment bien aussi un petit peu à l'extérieur. Alors, bon, c'est pas toujours évident de trouver des activités qui se font à l'extérieur, qui soient liées avec, qui soient à la fois ludiques et qui soient liées avec les ateliers qu'on a fait avant. L'année dernière sur l'électricité, on avait fait une petite course de radio-orientation, donc ça c'était vraiment chouette parce que les gamins avaient adoré. En plus, on avait profité du magnifique parc de Brissac et donc on s'était vraiment beaucoup amusé. C'est vrai que cette année, on a un petit peu, il y a eu un petit impair. On avait prévu de faire des fusées à eau, puis finalement on n'a pas pu le faire. Bon, c'est pas grave, on le fera en classe. Donc c'est vrai qu'en classe, on reprend un petit peu ces choses-là. On reparle des ateliers, de ce qu'on a retenu. Alors, encore une fois, on voit que les gamins retiennent un petit peu ce qu'ils peuvent. Hein. C'est pas, ils ne retiennent pas tout. Il y en a qui vont plus loin, il y en a qui vont moins loin. Voilà, mais je pense que chacun à son niveau prend un petit quelque chose. Quoi. Et puis surtout, c'est marquant parce que c'est pas seulement, ça ne sort pas du manuel. Quoi. Il y a une situation extérieure, particulière, qui fait qu'il y a un événement qui va marquer les mémoires. Quoi.
Et par rapport à ça, juste les enfants qui sont en difficulté scolaire, ceux qui ont du mal avec l'écriture ou avec vraiment le travail scolaire au premier sens, ceux qui ont un peu les habitudes du radiateur. Est-ce que dans des activités comme ça, ils s'y retrouvent à égalité par rapport aux autres ou est-ce que c'est...
À égalité, je ne sais pas, parce que l'égalité...
Oui, l'équité, non.
Qui est un peu délicat. Mais c'est vrai que c'est des gamins qu'on va pouvoir récupérer, qu'on récupère souvent dans des disciplines manuelles, quoi. Parce que là, justement, ils n'ont plus le poids de la lecture et de la compréhension écrite. Donc c'est vrai que là, ils sont dans une situation de manipulation, une situation d'oral. Ils peuvent poser les questions qu'ils veulent. Ils ont des gens en face d'eux qui pourront répondre dans tous les cas, alors que nous, on n'est pas toujours bien au point sur toutes les notions scientifiques. Et donc ça va permettre effectivement à des enfants comme ça de raccrocher peut-être à des choses dont ils avaient un petit peu décroché à cause de la lourdeur scolaire.
Tu peux parler de notre expérience de l'année dernière avec la troisième d'adaptation, je crois que ça s'appelle, du collège de Ganges, qui est venu nous voir, voir les ateliers de l'année dernière. C'était assez frappant parce que depuis qu'on fait de la vulgarisation, depuis 2004, on a déjà reçu plusieurs fois des collèges. Les enfants au collège, on les connaît, on sait comment ils sont. Des fois, c'est un petit peu difficile de garder leur attention. Cette troisième d'adaptation, donc nous, on se disait que ça allait peut-être être des ateliers un peu difficiles avec eux. Mais ça s'est super bien passé. On a eu leur attention, ils ont expérimenté, ils ont voulu expérimenter. C'était vraiment une chouette expérience.
Justement, par rapport, toujours pour rester dans ce sujet-là, est-ce que, une question qu'on se posait en préparant cette émission, c'est est-ce qu'un des objectifs sous-jacents, ou peut-être qui ne peut pas être dit comme ça, Est-ce que derrière, il y a quand même l'idée de créer des vocations, c'est-à-dire d'entretenir une espèce de vivier de scientifiques futurs, de personnes qui se dirigeraient vers la science, ou est-ce qu'il y a d'autres enjeux par rapport à la vulgarisation ?
Non, vraiment, le truc, les enfants, ils deviendront ce qu'ils veulent. Ce qu'il faut, par contre, c'est qu'ils aient les armes pour faire des choix, quoi. Et nous, on leur donne, à notre niveau, on essaye de leur donner les armes qu'on peut leur donner au niveau de la science, et qu'ils aient pas peur d'aller mettre les mains dedans, dans la science, et de jouer avec ça. Après, ils feront ce qu'ils veulent, hein. Mais...
Alors, ces activités-là s'adressent pas qu'aux, j'ai cru comprendre, ne s'adressent pas qu'à des enfants, en fait. Vous adressez aussi à des adultes,
c'est alors, ça ? Ouais, le truc, c'est que on a commencé avec les enfants. Parce que en fait, on s'est rendu compte, on a essayé au début avec les primaires. On savait pas s'ils allaient prendre notre message. Nous, on n'est pas des instits, hein, non plus.
Il y en a plus des instits.
Pardon, des professeurs des écoles qui partent à 60 ans, c'est ça ?
Ouais,
pardon, 62.
Les instits, c'est 55, c'est pas bon en ce moment.
Les instits. Bon.
Pour donc, tous et toutes.
Qu'est-ce que je disais du coup Ouais, les enfants, on savait pas s'ils allaient... la première année, on a parlé de la lumière, et notamment des photons, hein, ces particules élémentaires de lumière. Alors certains parmi nous disaient, non, c'est pas la peine de parler de photons, ils peuvent pas comprendre. Et bien en fait, on s'est aperçu qu'en rodant le message, la façon de leur parler, et bien on arrive à faire passer des notions... qu'on n'arriverait peut-être pas à faire passer plus tard ou plus difficilement. En fait, les enfants, ils ont le cerveau complètement ouvert encore, prêt à prendre n'importe quelle notion. Et donc, c'est des vraies éponges, quoi. Et donc, plus on leur donne tôt ces notions-là qui sont le plus proche possible de la réalité, plus... Enfin, mieux c'est, quoi.
Puis même, moi, je dirais, au-delà des notions, c'est pas seulement les notions, c'est cette curiosité intellectuelle qu'on évoquait tout à l'heure, qu'on récupère après, qu'ils deviennent scientifiques ou pas, peu importe. C'est cette ouverture et cette curiosité, cette envie de comprendre ce qui se passe autour d'eux, qu'on va récupérer après en histoire, en géographie, dans n'importe quel domaine de la connaissance, et qui, pour nous, est vital. Pour moi, c'est même le cœur de l'éducation, de l'enseignement. On peut pas enseigner à des gamins juste pour avoir des bonnes notes ou pour faire plaisir à papa ou à maman, il faut qu'ils aient une vraie curiosité. C'est ça qui leur fera traverser tout le cursus scolaire.
Et on peut rendre curieux les enfants avec des maths ?
Avec des mathématiques, oui. Oui. Peut-être pas aussi bien que vous le faites à Brissac avec la physique, parce que donc la question c'était, est-ce que ça s'adresse aussi aux adultes ? Donc moi je suis... on peut la modéliser. Enfin, on peut modéliser certains aspects. Mais donc moi, j'ai eu le plaisir d'aller assister juste avant l'émission là, à votre présentation sur donc, les différentes phases de différents... Enfin, il y avait notamment l'eau. Et donc, j'ai découvert qu'on pouvait faire bouillir de l'eau en la refroidissant. Avec de l'eau... En la refroidissant, on peut faire bouillir de l'eau. Moi, ça a éveillé vraiment ma curiosité. Et puis après, j'ai regardé les enfants. Et effectivement, c'est ce que tu disais. Et c'est vraiment des éponges.
Ouais,
et
puis on arrive
ils sont
à
totalement
leur...
ouverts. Bah oui, pourquoi pas faire bouillir les deux en refroidissant. Allons-y. Et ouais. Puis on y va. On va regarder. Ah, qu'est-ce que c'est ? D'accord. Il y a des colonnes d'air, ceci, cela.
Ouais, et puis on les
j'ai
amène,
trouvé ça excellent, vraiment.
On les amène petit à petit à cette chose-là. Et puis à la fin, c'est eux qui nous disent comment ça marche, presque. Hein. C'est étonnant.
Voilà, c'est ça le principe. C'est-à-dire qu'on leur montre le phénomène. On leur fait voir trois ateliers. Et puis à la fin, c'est eux qui expliquent comment ça se passe.
Ouais.
Alors du coup, ça avec curiosité, ça a un rôle social au niveau du débat pour savoir, pour faire des choix technologiques ou autres. Bah, finalement, ça a l'air pas trop mal. On va essayer d'écouter un autre son où on a un autre atelier. Et cette fois-ci, je crois que c'est un état exotique un peu de la matière. C'est l'état granulaire. Et on va parler, je crois, de ségrégation, mais pas raciale.
Alors ce qu'on va faire là, c'est qu'on va prendre des cailloux qui en principe sont un peu lourds. Et on va les mettre à la surface. D'accord ? Ici. Bon, c'est logique que le caillou, même s'il est plus lourd, il tombe pas. Puisqu'on n'est pas dans un liquide. Ça, tout va bien. Maintenant, pour l'aider un peu, on va l'enfoncer. Regardez, là, on l'a bien enfoncé. Il est largement en dessous. La question que je vais vous poser maintenant, c'est si on remue ça tranquillement, à votre avis, le caillou, est-ce qu'il va tomber au fond parce qu'il est plus lourd ? Ou est-ce qu'il va remonter ?
Mais non, il va descendre parce que c'est lourd et ça ne peut pas remonter à la surface.
Voilà, toi tu penses ?
Ça fait comme ça là.
Alors c'est ça. Est-ce que ça va être... Là, on va le faire. Ben, on va faire l'expérience et vous allez voir le...
Mais c'est sûr qu'il va être au fond.
Le résultat. Tu dis c'est sûr qu'il va être au fond.
Mais oui.
Voilà.
Alors,
ça peut prendre un petit peu de temps. Bon, faut lui laisser le temps de voyager un peu comme il veut. Et on va voir à un moment s'il réapparaît à la surface ou bien s'il apparaît au fond. Ah!
Ah, il est en haut.
Vous les avez vus?
Ça fait comme ça.
Et ça y est, ils ont réapparu. Alors, comment on peut expliquer ça, à votre avis? Pourquoi est-ce que le caillou, il finit par remonter? Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? Alors, ce qui se passe ici, c'est que, comme les billes que vous voyez là, elles sont très, très petites, à chaque fois qu'on secoue, les billes, elles viennent se mettre sous le caillou, là où il y a un petit espace vide, ok? Donc, à chaque fois qu'on secoue, on rajoute des petites billes sous le caillou, ce qui fait qu'au fur et à mesure, le caillou, il remonte.
O-A-Q-A-D, Wakadi, un pas de côté sur l'actualité sociale.
Wakadi, ça veut dire on a quelque chose à dire. Mais justement, nous, on a quelque chose à dire.
O-A-Q-A-D, Wakadi, un pas de côté sur l'actualité
sociale. Un pas de côté sur l'actualité sociale.
Wakadi, on a quelque chose à dire, en direct mais en différé puisque c'est une émission enregistrée de Brissac dans la vallée de l'Hérault, une émission sur science en fait. On vient d'écouter un reportage, on va changer de sujet puisqu'on va parler de Darwin. Est-ce qu'on avait envie de vous demander si vous aviez quelque chose à rajouter? On se posait une question par exemple, notamment en direction de l'adjointe au maire de Brissac, est-ce qu'organiser ce genre de manifestation c'est un coût? Est-ce que c'est compliqué en fait? Est-ce que c'est...
Non, en fait, la mairie apporte son soutien à toutes les associations qui veulent organiser des manifestations au niveau de la commune.
Ah, attendez, deux secondes, parce qu'on a un problème de micro, en fait.
Je ne sais plus ce que je disais.
Ça va aller mieux comme ça. Donc la question, c'était, est-ce que ça a un coût pour la municipalité?
Non, en fait, je disais, donc la municipalité apporte son soutien à toutes les associations qui veulent organiser une manifestation sur la commune. Et donc là, dans le cas de Science en Fête, donc la mairie prend en charge les repas du samedi. La communauté des communes a offert les repas pendant le temps scolaire. Et puis ce soir, il y a un apéritif de fin de séance à 18h30. Et il y aura lors de la diffusion aussi du film de Darwin, il y aura une distribution de bonbons.
Alors, voilà. Ça c'est bien, ça, il faut venir. Alors c'est dommage parce que comme l'émission est enregistrée, les gens ne pourront pas venir manger des bonbons ce soir.
Ouais, mais en même temps, comme ça, ils n'auront pas de caries.
Exactement. Donc on l'a annoncé, vous venez de l'annoncer magistralement, donc on est donc le 23 octobre, aujourd'hui, au jour où on enregistre l'émission, il y a donc une projection d'un documentaire fiction sur Darwin ce soir. On va pas changer de sujet, mais on va juste évoluer dans ce sujet. On va accueillir en plateau Eric Hembert, qui est enseignant-chercheur à l'UM2 et qui travaille à l'Institut des sciences et de l'évolution. Donc on va faire un peu de place sur le plateau. Vous pouvez rester dans le coin et intervenir évidemment si vous avez envie.
De beau temps. On peut pas dire où, on peut dire ouais. Bah justement, ça fait rêver. C'était un jour de beau temps. Dieu était de bonne humeur. Il avait créé la femme nue. Quelle grossière erreur. Oh, quel macho celui-là. Voyons ces fruits fragiles. À la merci des chacals. Il eut une idée lumineuse. Presque. Le poil. Au départ sur Terre c'était Byzance. Tout le monde m'a brossé dans mon sens. L'argent rentré dans la touffe, j'ai donc coté mes poils en bourse. Puis j'ai connu Marie Chantal, elle avait la bouche en cul de poil. On s'est quitté, un poil de l'épouser, le jour où elle a voulu décolorer toutes ces bourgeoises qui s'épilent. Hey, ça moi, ça me barre, ça m'horripile. Je suis l'ennemi public, celui qu'on torture en rasoir mic. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent. sans moi ça meurt, ça m'horripile. Dans un monde assez petit, je suis politiquement incorrect. Un jour je suis passé de mode, quel supplice. J'ai eu des démêlés de justice. Je rasais les murs, j'étais clandestin, traqué dans les moindres recoins. Je voulais pas finir comme fourniture pour perruque ou brosse à chaussures. Par charter, j'ai fui le capitalisme en Afrique où j'ai eu point nudisme. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent, sans moi ça me barbe, ça m'horripile. Je suis l'ennemi public, celui qu'on torture en rasoir mic. Toutes ces bourgeoises qui s'épilent, sans moi ça me barbe, ça m'horripile. Dans un monde assez petit, je suis politiquement incorrect. Bien trop malade, j'ai dû partir. On aurait dit un poil à frire. Mais j'ai trouvé mon bonheur, celle principale, dans une communauté au Népal. J'ai fondé mon paradis fiscal sur une baba coulant sandale. Mais avis à tous les crânes d'up, je serai de retour.
Donc là, après cette petite pause musicale, on va passer à la deuxième partie d'émission qui est consacrée à Darwin. Alors, on a eu Galilée qui, le salopard, a sorti l'homme du centre de l'univers. Et Darwin, eh ben, il a un peu descendu de son arbre en lui montrant un petit peu qu'il pouvait avoir une origine autre que Adam et Ève. Et je crois qu'il y a des petits dessins animés qui nous présentent ça.
Ainsi, monsieur Darwin ne croit pas en la Sainte Bible. Il prétend qu'Adam et Ève ne sont pas les premiers ancêtres de l'homme. L'homme descendrait... Eh oui, l'homme descendrait du singe. Mais alors, je voudrais demander à monsieur Darwin s'il descend du singe par son grand-père ou par sa grand-mère.
Charles Darwin avait publié un célèbre ouvrage sur l'évolution des espèces au moyen de la sélection naturelle en 1859. Le livre fit scandale. Bien sûr, nous savons tous aujourd'hui que les espèces vivantes évoluent au long des milliers, des millions d'années. Mais à l'époque, Darwin a changé notre conception du monde. Et pourtant, rien en lui n'annonçait un révolutionnaire.
Rien en lui n'annonçait un révolutionnaire et pourtant il a fait une sacrée révolution au niveau de l'histoire des idées. Donc on est avec Éric Imbert, toi tu es enseignant-chercheur à l'Université des sciences de Montpellier et tu travailles à l'Institut des sciences de l'évolution. Est-ce que vraiment on peut dire que Darwin a marqué une révolution au niveau de l'histoire des idées, en tout cas dans les sciences de la vie?
Alors ça c'est incontestable puisque Darwin est le premier qui va nous proposer une théorie qui va expliquer la biodiversité, donc la diversité du monde vivant. Alors, une théorie qui marche, hein, puisque avant lui, il y avait quand même un naturaliste français qui s'appelait Jean-Baptiste Lamarck, qui a publié un ouvrage aussi fort célèbre qui s'appelle Philosophie zoologique, qui, petite anecdote, a été édité en 1809, année de naissance de Charles Darwin. Et donc, Lamarck propose une théorie, une théorie du transformisme, c'est-à-dire que les espèces se modifie au cours du temps. Alors, manque de chance pour Lamarck, sa théorie n'était pas bonne, pour différentes raisons, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est assez technique, alors que la théorie de Charles Darwin, donc la théorie que l'on connaît sous le nom de la théorie de l'évolution, elle est une théorie dont les théorèmes et les axiomes sont exacts, ça marche.
Mais alors, du coup, est-ce que l'évolution, on en parle beaucoup, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de dire que l'homme descend du singe et que le singe descend de l'arbre? Est-ce que c'est ça ou c'est autre chose?
L'homme ne descend pas du singe, d'abord parce que l'homme est un singe, nous faisons partie des primates, au même titre que les gorilles, les chimpanzés, les bonobos ou d'autres groupes de primates. ce que l'on peut dire, c'est que l'homme est cousin du gorille ou du chimpanzé. Ce qui veut dire que nous partageons des ancêtres communs. Des ancêtres communs qui existaient il y a quelques millions d'années. Alors un exemple bien connu, c'est Lucie, ou alors donc 3 millions d'années, ou alors Toumaï, qui sont des, encore plus anciens, 7 millions d'années, qui sont des ancêtres des premiers lignées donc d'hominidés, et qui montrent en fait la divergence entre les grands singes et les lignées de l'homme moderne, Homo sapiens sapiens.
Alors qu'est-ce que c'est que cette théorie de l'évolution ?
Alors en fait, la théorie de l'évolution, donc, comme je disais tout à l'heure, elle permet d'expliquer la diversité du monde vivant. Hein, le titre du livre du Darwin, c'est « De l'origine des espèces », donc vraiment un titre polémique pour expliquer cette diversité. Mais elle est extrêmement simple dans sa présentation. Elle tient en fait en trois phrases, trois idées. La première, c'est qu'il existe une variabilité naturelle au sein des populations. Entre les populations, ou entre les individus d'une même espèce. Donc ça, c'est des choses qui sont créées par mutation, migration, enfin il y a des mécanismes biologiques très bien connus derrière cela. Donc première idée, il existe une variation naturelle. Deuxième idée, tous les individus n'ont pas les mêmes aptitudes à survivre, et donc à se reproduire. Et la conséquence de ces deux idées, c'est que les populations vont évoluer, puisqu'il y a des individus qui vont se reproduire de façon plus importante que d'autres individus. Donc, les populations vont évoluer. Et là, il y a une chose extrêmement importante qu'il faut essayer absolument de retenir, c'est que ce ne sont pas les individus qui évoluent, contrairement à ce que disait justement Lamarck, ce sont les populations qui évoluent. C'est des changements de fréquence. L'évolution, c'est avant tout des changements de fréquence à l'intérieur des populations.
Et ça, donc, du coup, d'un point de vue statistique ou d'un point de vue mathématique, ça veut dire quoi que c'est les populations qui évoluent, les fréquences qui évoluent?
Ben oui, ça s'étudie au niveau mathématique sûrement. Enfin, moi, je ne suis pas très calé sur la théorie de l'évolution, mais j'imagine que derrière, il doit y avoir la loi de Gauss qui doit être employée. Qui dit quoi? La loi de Gauss, elle dit qu'il y a une grande partie dans une population qui se comporte de manière moyenne, et puis très peu de la population qui se comporte sur les extrêmes. Et donc quand on fait le graphique, ça fait une espèce de courbe qui ressemble à une cloche.
Donc on a pas mal de gens qui se comportent comme la cloche. Et du coup, les conséquences de ce comportement clochesque de la population, c'est l'évolution de Darwin.
Alors, Darwin ne va pas aller aussi loin dans la formalisation mathématique de l'évolution. Darwin va décrire le mécanisme, l'idée générale, et la particularité de ce que va faire Darwin, c'est qu'il va décrire le processus d'évolution, donc des changements en fait des populations, sans connaître notamment les mécanismes génétiques. Les mécanismes génétiques vont être, l'ADN, etc., vont être découverts bien après Darwin.
Oui, parce que Darwin, c'est son livre, tu le rappelais tout à l'heure, c'est
1859.
D'accord. Et la génétique, c'est...
Alors, les premiers travaux de Mendel, ça va être à la fin du 19e siècle. Et l'avènement complet de la génétique, c'est au début du 20e siècle.
Donc, sans génétique...
Sans génétique, sans connaître forcément les chromosomes, l'ADN, etc., il va réussir à proposer un mécanisme évolutif qui marche. Alors, bien entendu, après la découverte des chromosomes et de l'ADN, on va aller beaucoup plus loin dans la formalisation de la théorie de l'évolution.
Alors, cette théorie, moi j'ai des connaissances très vagues sur Darwin et sur sa théorie, mais il me semble me rappeler qu'à l'époque, quand elle est sortie, ça a été assez compliqué. On parlait de révolution justement, et donc ça a remis un certain nombre de choses en question. On parlait... Justement, Boris disait qu'il a sorti un peu Dieu de la question de la création. Et même à l'heure actuelle, il y a des enjeux autour de cette théorie à l'heure actuelle. Je veux dire, on n'est plus dans ces...
Si on regarde l'histoire un peu l'histoire des sciences, on se rend compte que Copernic et Galilée vont effectivement venir confronter un certain nombre d'idées, puisqu'ils vont proposer que la Terre n'est plus le centre de l'univers. Darwin, lui, va proposer que l'homme n'est plus le centre de la création. Et d'ailleurs, Darwin va pas trop s'exprimer sur ces questions de création, mais il est assez opposé à l'idée de la création, même si il a eu des études de pasteur anglican, comme ça se faisait beaucoup à l'époque. Mais en fait, une des conséquences de la théorie darwinienne et de l'œuvre de Darwin, c'est de dire que le monde n'a pas été créé tel qu'il est décrit dans la Bible. Donc forcément, on comprend tout à fait que dans l'Angleterre victorienne du 19e siècle, ça ne peut que poser des problèmes avec la société de l'époque, donc forcément, avec, en particulier avec l'Église anglicane.
Et donc je crois que donc, ce samedi soir 23 octobre, à Brissac, il y a la projection d'un film, Darwin, Ère, Évolution, et on va écouter tout de suite une petite bande-annonce.
En fait, c'est un extrait d'un reportage qui a été fait sur France 5 pendant le tournage du documentaire, suivi du tout début du film en fait. C'est qui est un documentaire fiction.
Darwin, ça vous dit quelque chose?
Action, Jean-Pierre.
En mars 1858, alors que 10 chapitres étaient terminés, à la fois les deux tiers de mon ouvrage.
Dans cette petite ville de Haute-Normandie, Jean-Pierre Mariel participe au tournage d'un documentaire fiction pour France 5. L'acteur incarne Darwin, une manière de célébrer le bicentenaire de la naissance du grand scientifique anglais.
La santé du plus jeune de mes enfants.
Coupé !
Sur place, le producteur Loïc Boucher suit de près le tournage.
C'est Charles Darwin, incarné par Jean-Pierre Mariel, qui au soir de sa vie, après avoir écrit son autobiographie, se raconte à un jeune journaliste, Adam Clayton, venu l'interviewer juste avant sa mort, et se remémore en flashback les grands moments de sa vie.
En 1859, lorsqu'il publie L'origine des espèces, Charles Darwin confère à l'homme des ancêtres communs avec les singes. Pour le monde de la biologie, c'est une révolution.
Galilée avait retiré la Terre du centre de l'univers. Charles Darwin, lui, va retirer Dieu du centre de la création. Plus rien ne sera jamais comme avant. C'est une pensée incroyablement subversive pour l'époque. L'important, c'est de faire découvrir au plus grand nombre Charles Darwin et sa théorie, de bien expliquer comment fonctionne cette théorie de l'évolution, puisqu'elle n'est pas enseignée en l'état à l'école. Voilà l'ambition du film, en fait.
Avec la disparition de Charles Darwin, nous sommes tous désormais orphelins. Je crois qu'aucun homme n'a bouleversé à ce point la pensée humaine. Souvenez-vous du scandale qu'a suivi l'apparition de l'origine des espèces. Je me présente, Adam Clayton, journaliste reporter au Times. En tant que tel, j'ai eu l'immense privilège de rencontrer le grand homme pour recueillir ses mémoires. Et je puis vous assurer que l'histoire de l'apparition de l'origine des espèces est la plus incroyable qu'il m'ait été donné d'entendre.
Au début de l'été 1860, se tint la session annuelle de l'Association britannique pour l'avancement des sciences qui allait devenir légendaire.
Oui, c'est le fameux débat d'Oxford.
Mon livre sur l'origine des espèces était au centre des débats. Et une fois de plus, souffrant, j'étais absent.
Alors le livre l'origine des espèces était au centre des débats dans les fins du 19e siècle, milieu du 19e siècle. Mais alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a quand même, enfin surtout dans les pays anglo-saxons, une remise en question des théories darwiniennes, notamment avec les mouvements créationnistes. Nous, on a la chance en France d'avoir peu de ces mouvements, à part les mentonesques Bogdanov et l'intelligent design, mais sinon, qu'en est-il en fait des créationnistes? Qu'est-ce qu'ils remettent en cause et comment est-ce qu'on peut les combattre? Est-ce que les semaines de la science comme celle-ci à Brissac, les débats organisés comme celui du samedi soir avec la projection du film peuvent lutter contre ça? Est-ce que c'est dangereux?
Les créationnistes sont pas les actuellement, en tout cas en France, en Europe et aux États-Unis, sont pas les plus puissants, enfin le groupe le plus puissant qui pose des problèmes à la biologie évolutive. Le groupe le plus puissant actuellement, c'est les tenants de l'intelligence design, du dessin intelligent, donc le dessin avec EIN, qui eux donc proposent que l'évolution ne se fait pas au hasard et qu'elle a une finalité, qu'elle a un but qui, bien entendu, est l'homme. Et pour certains groupes, c'est aussi l'homme blanc, avec la femme blanche à côté, accessoirement.
Près de la cuisine.
Près de la cuisine, bien entendu.
Avec un fer à repasser.
Un fer à repasser.
Alors, est-ce que c'est pas un discours qui est récent, hein, puisqu'il y a toujours une lutte entre les religieux, on va dire, pour faire très, très vite, donc quelles que soient, surtout les religions du livre, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ou le Coran, et les scientifiques occidentaux. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau. La particularité de... chose assez récente depuis les années 60-70 aux États-Unis et les années 90 en France, c'est qu'ils essayent de jouer sur le terrain des scientifiques, ces tenants de l'intelligence design, en disant « nous aussi on fait de la science au même titre que les chercheurs au CNRS, que les universitaires, etc. » Et ils essayent d'entraîner en fait les scientifiques sur ce débat-là, alors qu'on n'a pas du tout le même discours, on n'est pas dans la même dialectique et pas du tout dans les mêmes modes de réflexion.
C'est-à-dire, quand ils vous disent « nous, on fait de la science », comment est-ce que vous pouvez dire que non, ce qu'ils font, ce n'est pas de la science ? Quelle est la différence entre leur travail qu'ils disent scientifique et le travail que tu fais, toi, à l'Institut des sciences de l'évolution, par exemple ?
Ben, on ne peut pas faire de la science à partir du moment où on en connaît déjà la réponse aux questions qu'on se pose. Comme leur question, enfin leur démonstration, in fine, c'est de démontrer que les mécanismes de l'évolution, c'est pour... favoriser l'émergence de l'homme blanc, encore une fois, ou de l'homme blanc, ils sont un peu coincés dans leur démonstration, puisqu'ils veulent absolument arriver à cette conclusion. La démarche scientifique exclut cette, cette chose-là. Ça, on a des hypothèses quand on monte des expériences ou quand, des observations, quand on cherche à faire des observations, mais on se donne le droit de réfuter ces hypothèses, autrement dit de se tromper.
D'accord. Et alors, en quoi lorsqu'on va faire une semaine des sciences comme ça, par exemple ici à Brissac, est-ce qu'on peut lutter là-dessus contre ça ? Est-ce que c'est en expliquant la démarche scientifique ? Est-ce que c'est en expliquant l'évolution ?
Alors, il y a les deux. D'abord, expliquer la démarche scientifique, c'est quelque chose d'important parce que ça permet de ne pas confondre Claude Allègre et les experts du GIEC. Et... Dans le domaine de l'évolution, chose surprenante, c'est quelque chose qui est assez peu étudié et enseigné dans les écoles. Donc, bon, c'est pas complètement surprenant puisque c'est quand même quelque chose de relativement récent, hein, 1859, je le disais tout à l'heure. Si on compare à Galilée, le travail de Galilée, c'était au XVIIe siècle, pardon, le procès de Galilée, c'est 1633. Donc, on est dans des échelles de temps pas tout à fait comparables. Donc, il semble important quand même que la communauté scientifique, les chercheurs, essayent effectivement, alors je dis toujours, pour faire un bon mot, aillent prêcher auprès du public pour leur expliquer sur ce quoi on travaille actuellement. Parce qu'en plus, la chose importante aussi à noter, c'est je travaille dans un institut qui s'appelle l'Institut des sciences de l'évolution. Ça veut dire qu'on a encore du travail à faire dans ce domaine-là, que Darwin n'a pas tout fait, il n'a pas tout écrit. Il nous a proposé quelque chose sur lequel on travaille.
D'accord, donc Darwin a donné du travail à des milliers de chercheurs et on a encore du boulot là-dessus.
C'est ce qu'on appelle un programme de recherche.
D'accord, bah alors on va continuer à espérer que vous allez continuer à prêcher encore longtemps et les sciences et la théorie de l'évolution et lors des différentes semaines de la science qui vont suivre, les années prochaines, cette longue vie dans ces expériences-là. Nous, on va se retrouver dans les semaines prochaines, pas pour parler de science, mais peut-être pour parler plus de l'actualité sociale plutôt garnie ces temps-ci. Avec notamment la question des retraites. On y est revenu sur Wakadi lors de deux émissions, mais il y aura encore d'autres choses à dire là-dessus, parce qu'effectivement, on a quelque chose à dire. On a des choses à faire écouter sur d'autres modèles de société possibles.
Et on rencontre des gens qui ont des choses à dire là-dessus. Discours, et pas qu'un seul point de vue.
Non, aussi. C'est ça qui est bien. Ouais. C'est ça qui est bien.
Et puis souvent, l'argumentaire, il ressemble un peu à ce que décrivait Eric Imbert. Il y a des gens qui font des démonstrations, alors qu'on sait déjà le résultat qu'ils veulent obtenir quand ils font la démonstration. En fait,
tu parles des 62 ans ?
Par exemple sur la population qui vieillit, sur ce genre de choses.
Et oui, des fois, il y en a qui posent des questions en proposant d'abord la réponse. Mais ça, on verra donc avec Wakadi, avec un autre pas de côté sur l'actualité sociale. Et puis donc, bonne semaine. C'était une émission enregistrée à Brissac et que vous allez pouvoir écouter sur Radio Escapade et sur Radio Clapas.
Exactement, et pour ceux qui aiment bien écouter aussi les émissions sur leur ordinateur, vous pouvez les écouter sur wakadi.free.fr. Wakadi, ça s'écrit O-A-Q-A-D-I, donc wakadi.free.fr. Au revoir.
Au revoir et merci à la municipalité de Brissac, à l'Université des Sciences et aux écoles qui ont participé à l'émission. Merci à Eric aussi pour ses lumières et à Lionel pour ses chiffres.